Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Souvenez-vous ce que le Seigneur a fait le jour où il est entré dans son service. L'Écriture nous dit qu'il avait environ 30 ans, âge dans lequel les Kéatites entraient dans le service dans le temple, de 30 ans jusqu'à 50 ans. Vous trouverez ces références dans le livre des Nombres. Et donc Jésus, quand il rentre à 30 ans dans son service, il va dans une synagogue, il déroule le rouleau et il commence à lire. Il commence à lire et prend le passage du prophète Ésaïe 61 qui dit ceci: « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. » Donc le Mashiach, le Messie, il m'a oint, le fils de l'huile, le fils de l'onction. Ce fameux Ésaïe 5 dont on parlait tout à l'heure, il est là, il dit: l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Pourquoi faire? Pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers. Et à ce que je sache, qu'en regardant le ministère du Seigneur, je ne vois jamais Jésus délivrer des captifs de prison humaine. Je vois Jésus délivrer des captifs de prison spirituelle. Je le vois libérer les gens d'esprits mauvais, de démons. Je le vois guérir des malades qui étaient assujettis à des esprits d'infirmité, comme la veuve, la fille d'Abraham, qui était depuis 18 ans liée, qui était courbée dans son dos, et Jésus chasse un esprit d'infirmité sur elle. Et nous la voyons se redresser. Une fille d'Abraham, une fille qui était dans la foi, n'est-ce pas? Et nous voyons le Seigneur, quand il commence son ministère, il va déclarer tout net: je suis venu pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les prisonniers, pour faire sortir les captifs des prisons. Et tout, c'est sur le plan spirituel que Jésus va agir. Guérir un cœur brisé, c'est sur le plan spirituel. Délivrer un captif ou libérer un prisonnier, c'est sur le plan spirituel. Car beaucoup d'âmes sont prises par le prince des ténèbres à cause du péché. Que de tout temps, c'était une délivrance de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Un des paramètres pour les enfants de Dieu, ce que les enfants de Dieu, pour servir Dieu, doivent être libérés. Libérés dans leur vie, libérés dans leur service, libérés dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour eux. Nous devons être libres. Libre dans nos cœurs, que l'ennemi n'ait aucune part dans nos cœurs. Car quand l'ennemi a des parts dans nos cœurs, il va freiner notre marche. Et c'est comme ça pour beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement. De le servir sans crainte, de quelle manière? En sainteté et en justice. Amen. En sainteté et en justice, devant lui tous nos jours. En sainteté et en justice devant lui tous nos jours. Et nous allons voir le Seigneur agir puissamment dans les évangiles. On va le voir rentrer dans un combat quasi permanent avec le prince des ténèbres. Un apôtre qui était l'apôtre Jean, qui était l'apôtre de l'amour. J'aurais plutôt entendu cette parole de l'apôtre de Paul ou de Jacques ou de Pierre, mais Jean, l'apôtre de l'amour, va nous dire ceci: Jésus a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Nous avons vu que aussi ce combat qui va être révélé était un combat qui ne sera pas sans conséquence. Pour ceux des frères qui ont fait l'armée, nous savons que pour faire l'armée et aller en guerre, auparavant, il nous faut faire les classes, le maniement des armes, beaucoup de choses pour que nous soyons prêts à affronter la guerre. Pour les enfants de Dieu, c'est pareil. Tu ne peux pas aller affronter sur le terrain de l'ennemi, le confronter, si auparavant tu t'es pas revêtu de toute l'armure de Dieu. Amen. Toute l'armure de Dieu. Et Paul, l'apôtre Paul, notre frère bien-aimé Paul, va nous exposer ce thème d'une manière si claire. Si clair. Il va nous dire dans Éphésiens 6, et je vous invite à prendre la Bible avec moi, au chapitre 6 d'Éphésiens, texte archi connu, n'est-ce pas? Il y en a qui peuvent vous le réciter par cœur, mais qui n'ont pas compris à quel point nous étions impliqués dans cette guerre-là. Éphésiens 6, à partir du verset 10, Paul va dire au reste, mes frères, nous avons vu la semaine dernière, fortifiez-vous. Pour ce combat, on n'a pas d'autre solution que de se fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Comprenez ? Dans ce combat, nous n'avons pas d'autre moyen que de nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Nous tenons toutes nos forces du Seigneur. Nous ne combattons pas avec des armes charnelles, nous combattons avec des armes spirituelles. Paul nous dira que celui qui combat dans la lice combat selon les règles de la lice. Mais les règles de la lice, ce sont des règles charnelles. Un combat de gladiateur, c'est un combat face à un lion, face à un autre gladiateur. Mais nous, nous combattons non pas la chair et le sang, non pas des hommes, non pas des femmes. Les soldats romains combattaient, ils avaient une tactique, c'est qu'ils se mettaient en carré. Le dos n'était pas protégé. Seul l'avant était protégé. Ceux qui protégeaient le dos, c'était le soldat qui était derrière eux. Chacun se protégeait mutuellement. Dans l'Église, nous devons nous protéger mutuellement. Mutuellement. Panoplia, l'armure de Dieu, pour quoi faire ? Afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Afin de pouvoir tenir ferme. Frères et sœurs, si nous manquons une arme, nous ne sommes pas habilités à combattre. Il nous faut toutes les armes de Dieu. Nous les verrons au fur et à mesure des enseignements, quelles sont ces armes. Ces armes, c'est un mode de vie, c'est la foi. On verra toutes ces choses, n'est-ce pas? On verra toutes ces choses, on va les énumérer les unes après les autres pour bien prendre conscience qu'il ne doit rien nous manquer lorsque nous engageons un combat spirituel. Non seulement rien nous manquer, mais être orné par le Saint-Esprit des dons nécessaires pour qu'au moment du combat, nous arrivions et nous puissions discerner ce que nous combattons. Il est dit dans 1 Corinthiens 12, Paul citant les divers dons de l'Esprit, il va arriver, il va dire, et aussi les discernements des esprits par le même esprit. Les discernements des esprits par le Saint-Esprit. Paul va nous dire qu'il y a plusieurs discernements des esprits. Et bien sûr, quand on voit la hiérarchie satanique, comment le royaume de Satan est structuré, quand on voit que cette pyramide, contrairement à l'Église du Seigneur, qui est une église qui se place sur le plan horizontal, l'église de Satan et le royaume de Satan, il se place sur le plan vertical. Il y a une hiérarchie. C'est comme une pyramide. Il y a un qui domine et les autres qui descendent en bas et qui sont des graduations de la puissance de Satan. Paul va les énumérer. Il va nous dire, il y a des principautés. Nous avons vu mardi dernier que les principautés, ce sont ces démons forts en puissance et qui agissent sur les nations. Texte dans Daniel, texte dans Ézéchiel, qui nous montre qu'il y a des puissances sataniques demeurent sur des pays. Donc il y a des combats dans les lieux célestes, frères et sœurs. Il y a des combats au-dessus de nos nations. Il y a des combats partout dans le monde. Il y a un combat spirituel qui se joue dans l'enjeu, c'est le salut des hommes ici. Et dans ces principautés, il y a quelqu'un qui est le prince des princes. Il ne peut pas être le roi des rois ni le seigneur des seigneurs parce que ce titre appartient au Seigneur. Mais il est le prince des princes, c'est Satan. Satan, c'est le prince de ce monde et Jésus l'a reconnu. Il a dit qu'il était le prince de ce monde, c'est-à-dire que son domaine, c'est cette terre. Vous savez pourquoi ? C'est à cause de ce que le Seigneur lui a dit dans le jardin d'Éden. Quand il a dit au serpent, désormais tu romperas sur ton ventre. Et la terre, c'est le domaine de Satan. C'est là où il agit. Et Jésus l'a reconnu, oui, tu es le prince de ce monde. D'accord. Mais on a une affaire à régler ensemble. Et puis, on voit Paul va citer les autorités, ceux qui agissent au-dessous des principautés. Ce sont des délégations de pouvoir qui agissent au lieu et place des principautés. Éphésiens 1:20, où il est dit que Jésus, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et domination, et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef de toutes les choses, sur toutes choses à l'Assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et après, Paul va dire, « Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos péchés et dans vos fautes, dans lesquelles vous aviez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. » Si tu te places dans ta vie, sur le plan de la désobéissance vis-à-vis de Dieu, alors que tu connais la volonté de Dieu, tu vas avoir affaire à l'ennemi. Si tu sais ce que tu as à faire et que tu ne le fais pas, tu vas te trouver confronté avec l'ennemi. L'ennemi, il a un pouvoir que Dieu lui permet. C'est un grand mystère. Mais Dieu permet ces choses. Je vais te dire ce soir, écoute-moi bien. Si tu continues de pécher, c'est le terrain par excellence sur lequel Satan se place pour te tourmenter. Je vais m'expliquer. Il y a un nom qui est donné à Satan qui est Belzébub. Belzébul. Baal, Zébub en hébreu. Ce qui veut dire Seigneur des mouches, Seigneur du fumier. Voilà un de ses titres. C'est ragoûtant, n'est-ce pas? Baal-Zébub. Vous le trouverez dans le premier livre des rois. Il y est dedans. Faites-moi confiance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une mouche? Une mouche, c'est un insecte qui naît de la corruption. Et chaque fois qu'un homme et une femme pêchent volontairement, Satan vient se nourrir du péché de cette personne. Vous comprenez cela? Il nous a libérés pour le servir en sainteté et en vérité tous les jours de notre vie. Dès que nous sortons du terrain de la consécration de la sainteté avec le Seigneur, nous sommes exposés à l'ennemi. Jamais Jésus a dit qu'il nous protégerait de ces choses. Jésus a dit, prenez garde. Après nous avoir donné toutes les armes, c'est à nous, n'est-ce pas? C'est chacun pour soi et ensemble que nous allons combattre ces choses. Il n'est pas question, n'est-ce pas, que l'Église soit une Église qui soit endormie. Il est dit dans l'Écriture que le diable a été jeté sur la terre, animé d'une grande rage, et qu'il est venu pour faire la guerre à qui? Vous connaissez la parole? La guerre au... Dites-le fort, s'il vous plaît. La guerre à qui? Mais pas au monde, ça lui appartient. Les gens qui connaissent pas le Seigneur lui appartiennent. Il est venu faire la guerre aux saints. L'Église est un danger pour le royaume de Satan sur cette terre. Et comme l'Église en ce moment, elle est la queue, elle n'est pas la tête, alors il se régale. Il se régale. Ces délégations de pouvoir qui sont là, ce sont des démons qui viennent coiffer les régions. Écoutez bien, mes amis, écoutez bien. Écoutez bien, parce que c'est tellement véritable. Quand Satan il commence à noyauter un pays, il va commencer à noyauter le gouvernement. Les gouvernements de ce pays. Frères et sœurs, je suis désolé. La majorité des gouvernements de cette terre, ils sont sous la férule de la franc-maçonnerie et des Rose-Croix. C'est démoniaque. Trois quarts du gouvernement français, même plus, est franc-maçon. Il noyote les gouvernements. Il tisse sa toile d'araignée. Vous savez pourquoi il tisse sa toile d'araignée? Parce que le but de l'ennemi, c'est de faire venir la terre sous le gouvernement mondial. Il faut que les choses se mettent en place, et elles sont en train de se mettre en place, frères et sœurs, sous nos yeux. Un gouvernement mondial n'est pas loin d'être constitué. Après avoir noyauté la tête pensante de l'État, il va s'attaquer aux régions. Regardez nos régions, frères et sœurs, en France. Elles sont toutes marquées par des activités occultes. Lyon, c'est le siège de la sorcellerie en France. La Bretagne, c'est le siège du spiritisme. Le Sud-Ouest, allons-y, vous allez voir et vous allez comprendre. Toutes nos régions, elles sont noyautées par Satan. Et je ne brosse pas un tableau noir, c'est une réalité. Et ensuite, après ces autorités, il y a les dominateurs des ténèbres. Et eux, ils ont une tâche spécifique. Ils sont sous les principautés, sous les autorités. Voici les dominateurs des ténèbres. Quel est leur rôle? Ben écoutez, moi, je vais vous citer l'apôtre Paul. Vous prenez 2 Corinthiens 4, 4 et vous allez vite comprendre. Lisons la parole de Dieu avec les yeux du Saint-Esprit, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 4, et à partir du verset 3, Paul dit ceci. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Frères et sœurs, comment se fait-il que les gens et qui entendent l'évangile, et vous entendez, mais moi je ne comprends pas les Écritures, je ne les comprends pas. Comment peuvent-ils passer des heures à lire Midi Libre, de la première page à la dernière page, sans que ça les gêne? Mais dès qu'ils sont devant la parole du Seigneur, ils ont comme un voile dessus. Qui les voile? Les dominateurs des ténèbres. Ce qu'on appelle les scotos, scotia, les ténèbres. Des ténèbres qui viennent voiler spécialement l'évangile de Jésus-Christ pour que les âmes ne rentrent pas dans le salut. Nous sommes dans un combat, c'est pour ça que la prédication de l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Il faut bien que ce soit une confrontation de puissance entre la lumière et les ténèbres. Regardez ce que Paul déclare dans les Colossiens. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous a délivrés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. » Alléluia. Transporter du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Regardez ce que Jésus va dire à l'apôtre Paul. Il va lui donner la clé de l'évangélisation. La clé de l'évangélisation telle que le Seigneur l'a conçue en appelant Paul. Et ça, c'est le vrai schéma de l'évangélisation. Voilà. Acte 26. Voilà la clé de la véritable évangélisation. Ce n'est pas nos petites évangélisationnettes que nous faisons. Non, non. Voilà le véritable principe de l'évangélisation. Jésus va dire à Paul, bon, qui es-tu, Seigneur? Acte 26, et à partir du verset 15. D'abord, il lui dit, il est dur de regimber contre les aiguillons. Et moi, je dis, mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais toi, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu afin de te désigner pour serviteur et témoin, et des choses que tu as vues, et de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai, en te retirant du milieu du peuple et des nations vers lesquelles moi je t'envoie. Pourquoi faire? Pour ouvrir leurs yeux. Ah, il faut que les yeux soient ouverts. Pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres, à quoi? À la lumière. De qui? Du pouvoir de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Voilà le principe de l'évangélisation. C'est de faire passer des âmes des ténèbres à la lumière. Du royaume de Satan au royaume de Dieu. Alléluia. Voilà ce à quoi Paul a été appelé. Et ce que toi, mon frère, et toi, ma sœur, tu as été appelé. Faire passer des âmes des ténèbres à la lumière. C'est une confrontation de puissance. Paul va dire, quand il raconte son témoignage, ce que Jésus lui a dit, et qu'il se tourne des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Et du pouvoir de Satan à Dieu. N'oublions pas, frères et sœurs, que quand Satan a été chassé, n'est-ce pas, après avoir chuté dans les lieux célestes, alors qu'il était un chérubin protecteur, qu'il présidait à la louange, qu'il était le plus beau des chérubins, haut en beauté, haut en gloire, il s'est trouvé de l'iniquité en lui, et Dieu l'a précipité des cieux vers la terre. Il nous est dit qu'en étant précipité sur la terre, il a entraîné un tiers des anges. Un tiers des gens qui se sont rebellés contre Dieu. Et quand nous savons que les anges sont par myriades de myriades, faites un calcul, n'est-ce pas? Et vous comprendrez qu'il en a entraîné beaucoup avec lui. C'est comme ça qu'il a organisé son royaume. Et enfin, nous trouvons, n'est-ce pas, dans la fin de la hiérarchie, ce qu'on appelle vulgairement les esprits impurs, pneumaponeros, c'est-à-dire esprit mauvais, esprit méchant, esprit pervers, mauvais esprit, le démon, d'où les vices, lâche, bas, vil. Et puis, on l'affuble d'un second nom, en grec, akathartos, pneuma akathartos, qui veut dire immonde, impur, sale, souillé, non purifié. Ils veulent se nourrir de notre péché. Plus tu pèches, plus tu lui laisses du terrain dans ta vie sur le péché, plus il va se nourrir de ton péché, plus tu lui donnes des forces en toi. Plus tu lui donnes des forces en toi. Plus il gagne du terrain dans ta vie, plus il gagne du terrain. Il se nourrit du péché. Comme le Seigneur des mouches se nourrit des excréments, il se nourrit de ton péché. Maintenant, nous ne pouvons pas continuer cet enseignement. Si nous avons un adversaire, nous devons le connaître. Qui est-il? Nous savons que la Bible nous le décrit, et pas seulement que le Nouveau Testament, n'est-ce pas? La majorité des noms qui sont donnés à Satan, vous les trouvez dans l'Ancien. Satan, il connaissait. L'adversaire. Je disais à mon frère Christian Pellon, l'autre jour, on partageait ensemble, je disais, dans la guématria du nom de Satan, c'est environ, il me semble, 459, Satan, il est le principe de la haine, il est rempli de haine. Eh bien, le mot Satan, qui veut dire haine, il a pratiquement l'équivalent de la valeur du nom de Satan. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a que de la haine. Il n'y a que de la haine. Et s'il peut, il te détruit. Il te détruit. Petit à petit, il te détruit dans ta vie. C'est pour ça que le combat est tellement rude qu'il nous faut rester attachés au Seigneur et à sa grâce toute puissante, à revêtir toute l'armure de Dieu pour tenir, dit Paul, dans les temps mauvais. Et les temps sont mauvais. Les temps que nous vivons sont mauvais. Voyez-vous pas dans nos maisons, dans nos familles, ce qui se passe? Voyez-vous pas ce qui se passe dans l'Église, ce qui se passe dans le monde? On en a entendu parler ce week-end. Et ce sont des temps fâcheux. La génération que nous vivons est une génération difficile. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens seront avares, fanfarants, hautains, orgueilleux, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, qu'ils auraient des apparences de piété. Ah, voilà. On vient à l'église, on s'assoit sur la chaise, on dit Jésus, apparence de piété, mais ils ont, au fond d'eux-mêmes, ils en auront renié ce qui en fait la force. Satan aime les gens religieux. Les gens religieux, c'est là où ils se régalent le plus. Parce qu'ils vivent de rites, ils vivent de traditions. Nous ne vivons pas de rites, frères et sœurs. Nous ne vivons pas de traditions. Nous vivons par l'Esprit du Dieu vivant, par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas, à vivre notre foi avec des rituels. Nous vivons par l'Esprit, il faut que ça soit toujours nouveau, que ça vienne d'en haut, que ça vienne du royaume, que ça coule et que ça nous rassasie, que ça nous vivifie. On n'a pas besoin de vivre notre foi comme des religieux. La religion, c'est l'uniformité. Tout le monde est pareil dans la religion. C'est le veau d'or qu'ils ont adoré. Hein, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Allez, on a fait un veau d'or. Et on s'est prosterné devant le veau d'or. Mais Dieu n'est pas uniforme. Dieu est un dans sa diversité. Alléluia. Il est un. Il n'est pas uniforme. Il est un Père, Fils, Esprit Saint. Moi, j'invente rien. Les Juifs le savent. Si vous regardez les anciens maîtres d'Israël, avant que Jésus arrive, parce qu'après ils ont tout déformé avec le Christ, hein, parce qu'ils n'ont pas voulu entendre, parce qu'ils ils ont dit, « Oh, celui-là, non, nous ne voulons pas. Non, non, faisons-le périr. » Il est venu pour nous dire des choses, « Oh Moïse !» Et pourtant Moïse, sur le mont de transfiguration, il était avec Élie, rendant témoignage au Seigneur. L'Église est en guerre. L'Écriture nous dit que notre génération est mauvaise, que le Saint-Esprit dit expressément, c'est pas Paul qui le dit à Timothée, c'est l'Esprit de Dieu qui dit. Qu'est-ce qu'il dit? Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi. Tiens, c'est pas nouveau. L'apostasie. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Si je vous dis, lâchez Jésus, vous allez me dire, mais non, nous aimons le Seigneur. Mais l'apostasie n'est pas une rupture brutale avec le Seigneur. L'apostasie, c'est quelque chose d'insidieux qui vient tout doucement et tu perds tout doucement la prière, tu perds tout doucement la lecture de la parole et puis tu t'éloignes. Et puis tu dis, pourtant je suis à Jésus, pourtant, mais tu t'éloignes. Et puis tout d'un coup, tu dis, tiens, c'est ça l'apostasie. Jésus dit que dans les derniers temps, avant son retour, il nous a avertis que la foi du plus grand nombre se refroidira. Pour que tu n'aies pas une foi refroidie, mon frère, ma sœur, il faut que tu sois connecté à la source de vie. Il faut que tu sois connecté au Seigneur, car lui te gardera au temps mauvais. Il le dit, je te garderai hors de l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habiter toute entière. Toi, tiens ferme ce que tu as reçu, parce que tu as gardé la parole de ma patience, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Alors moi aussi, je te garderai hors de l'heure de la séduction, hors de l'heure de la tentation, je te garderai. Parce que tu connais, mon frère, ma sœur, le chemin du lieu secret, parce que tu connais le conseil secret de Dieu, parce que tu peux rentrer dans l'intimité avec Jésus, parce que tu peux avoir un cœur avec lui. C'est quand tu es avec un cœur à cœur avec le Seigneur que tu peux recevoir la révélation. L'Esprit de Dieu va chercher dans le cœur du Père la chose à révéler. Et le Saint-Esprit le transmet à ton cœur, afin que les yeux de ton cœur soient illuminés, afin que tu te réjouisses de savoir les choses du royaume de Dieu. Mais cela, tu le trouves que dans l'intimité. Tu le tournes en fermant la porte de ta chambre dans le lieu secret, en ayant une relation avec ton Père qui est dans les cieux. Quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Les enseignements, ils ne sont pas donnés dans la rue, hein. Ils sont donnés dans l'église, hein. Alors s'il y a des enseignements de démons dans l'Église, c'est que les enseignements qu'on donne ne sont pas vrais, qu'ils sont tordus. Ils ont, comme le Canada Dry, 99% de Canada Dry, mais il y a 1% qui n'est pas du Canada Dry. Donc la bouteille, ce n'est pas du Canada Dry en entier. C'est un soupçon de choses très très légères dedans qui vont déformer. Par exemple, des enseignements qu'on donne en ce moment. On te dit, il faut que tu cherches ton identité en Christ. Mais tu es tombé sur la tête. Moi, le jour où j'ai cru, Christ est venu habiter en moi par la foi. Je n'ai pas à chercher mon identité en Christ. Christ vit en moi. Voilà, mon identité, je l'ai. Je n'ai pas besoin de faire des séminaires pour chercher mon identité. Si tu appartiens à Christ, Christ vit en toi. Tu n'as pas besoin de chercher ton identité, tu l'as. Ou alors, il faut trouver l'amour du Père. Tu es malade, l'amour du Père. Tu es fou, pourquoi tu dis ça? Le jour où tu as cru, est-ce que le Saint-Esprit n'a pas répandu dans ton cœur l'amour de Jésus? Romains 5:5. Alors, on fait cheminer les gens dans des chemins de traverse. Va chercher l'amour du Père. Tu vas passer toute ta vie à chercher l'amour du Père alors qu'il est en toi. Non, mais attends, je rêve. Ce sont des doctrines qui sont enseignées dans l'Église du Seigneur. Et puis la psychologie. Allez, oui, des enseignements de psychologie. Ah, la psychologie, le raisonnement de l'homme. Moi, je connais dans ma vie qu'une seule chose, frères et sœurs, la révélation. Si Dieu ne me révèle pas, je ne dis pas. S'il me révèle, je dis, je donne à mes frères. La révélation que le Seigneur désire donner à chacun de ses enfants. Frères et sœurs, quand tu rentres dans un combat spirituel, est-ce que tu n'as pas besoin de la révélation? Georges, tu n'as pas besoin de révélation quand tu es dans un combat spirituel et que les démons ils te font tourner en bourrique? Tu n'as pas besoin de recevoir du Seigneur quelque chose de précis pour que l'âme soit libérée? Mais oui, mais ça tu peux l'avoir que dans la communion et l'intimité avec Dieu. Si tu n'as pas d'intimité, ne va pas essayer de chasser des esprits ou des démons, tu vas te faire battre par les démons. Ils connaissent ta vie, hein? Il est tapis, il rôde, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, dit Pierre. Il rôde autour de nos vies, pas autour des gens du monde qui lui appartiennent, qui fornient, qui font l'adultère, et qui se droguent. Et... Non, non, pas cela, cela il les a sous son joug. Non, 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 non. Les enfants de Dieu. S'il peut en faire tomber, il les fera tomber. C'est pour ça que Jésus nous a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, nous avons dit qu'il faut connaître notre adversaire. Jean va nous dire, dans Jean 14, 30, qu'il est le prince de ce monde. Paul va nous dire, dans Éphésiens 2, 2, qu'il est le prince de la puissance de l'air. Nous venons le voir. Matthieu 12, 24 va nous dire qu'il est le prince des démons. Matthieu 4, 5 va nous le révéler comme étant le diable. En 4, 3, il va nous le révéler comme étant le tentateur. En Apocalypse 12, il va nous être révélé comme l'accusateur. En 12, 9, comme le séducteur. Pierre va nous le révéler comme l'adversaire. Jean comme meurtrier, comme le père du mensonge, comme le menteur. L'Apocalypse va nous le révéler comme le dragon. Matthieu à nouveau va nous le révéler comme le malin, comme l'ennemi. L'Apocalypse va nous le révéler comme le serpent ancien. Ésaïe va nous le révéler comme étant le tyran, l'astre brillant, le serpent fuyard et tortueux, le Léviathan, Belzébul, Bélial, Apollyon, Abaddon, le fils de l'aurore, le chérubin protecteur, le vainqueur des nations, le vainqueur des nations, le vainqueur des nations. L'ange de l'abîme, l'ange de lumière, l'homme fort, le voleur, le loup, le lion rugissant. Alors voilà la panoplie des noms de notre adversaire. Ils étaient au courant, nos frères, dans la foi. Hein. Il est une créature. Et c'est ça qui nous avantage. Il est une créature. Il n'est pas le créateur. Donc s'il est une créature, il a besoin de tout un état-major pour faire passer ses ordres. Il n'est pas ni omniprésent, ni omnipotent, ni omniscient. Sa base, c'est la terre. Il a été précipité là, mais que le Seigneur est bon. Il a jeté sur la terre, mais Jésus a placé un endroit sur la terre qui désigne l'endroit de sa défaite. C'est Golgotha. Vous savez que Golgotha, en hébreu, veut dire le mont du crâne. Et la tradition religieuse fait dire que c'est sur le mont Golgotha que Adam aurait été enterré. Mais quelle image, frères et sœurs. Vous rendez compte? Adam enterré, la croix plantée sur l'ancien Adam. Golgotha, le mont du crâne. Vous rendez compte? La nature rebelle et déchue, la croix posée dessus, et la nouvelle nature qui vient. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. C'est pour ça que l'Écriture nous parle du premier Adam et du dernier Adam. Le premier Adam était terrestre, le dernier Adam il est céleste. Il vient du ciel. C'est notre Seigneur. Alléluia. Donc il est une créature, il nous est dit qu'il était parfait à l'origine, qu'il occupait une position extrêmement élevée, il était un ou le chérubin protecteur, loin en Éden, sur la sainte montagne de Dieu. Il est dit qu'il est tombé dans l'orgueil, ayant voulu dans sa folie se faire égal à Dieu et même le supplanter. Il a subi un premier jugement par lequel il a été déclaré déchu. Dieu lui a dit, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Donc, il est une créature. il a besoin d'un royaume structuré. Et dans ce royaume, il règne par la peur, la frayeur, par la domination. Son trône, c'est un trône basé sur la cruauté, l'oppression et l'adoration. Alors il y a un psaume qui est assez intéressant, le psaume 94-20. Il y dit ceci, il est parlé ici dans le verset 20, « Le trône d'iniquité qui fait de l'oppression une loi, serait-il uni à toi ?» Le psalmiste nous révèle que le trône d'iniquité qui fait de l'oppression une loi, c'est le trône de Satan. Et il est tellement orgueilleux, car l'orgueil a été trouvé dans son cœur, parce qu'il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il est tellement orgueilleux que lors de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le désert, il y aurait beaucoup à dire dans cette tentation, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Il va lui dire, le diable le transporte encore sur une haute, forte montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et leur dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu me rends hommage. Donc il est sûr de son fait. Je te donnerai toutes ces choses, c'est-à-dire tous les royaumes du monde et leur gloire. Hein ? Il va faire un marchandage avec le Seigneur. Et Jésus va lui répondre, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui, seul. Alors, il y a une similitude entre l'organisation du royaume de Satan et le royaume organisé par les hommes soumis aux princes de ce monde. Quand nous voyons que des gouvernements sont soumis aux princes de ce monde, ils vont agir dans la peur, dans la cruauté, dans la force. Et c'est ce qui se passe, frères et sœurs. Quand vous pensez que Hitler, son gouvernement, il était soumis à l'occultisme et au spiritisme avec Eva Braun, comment ne pas comprendre que Satan était derrière ces choses-là? Vous savez que Satan, il a un royaume établi sur la terre, il a des points forts, des pays qui lui appartiennent, dans lesquels il domine. Et un de ses meilleurs lieux, où il a sa maison de campagne, vous savez où il est? Il est au Tibet. C'est sa maison de campagne. Et là, l'invitation, ça monte, les moines, ils montent, ils descendent. Et c'est là où je m'élève contre l'Église qui n'a pas pris sa position dans le Seigneur. L'Évangile du Seigneur devrait être le sel de la terre et la lumière du monde. Et nous avons laissé à Satan de déployer toutes ces fausses religions, et les Krishna, et les Baya, et les Bouddhas. Moi, je ne voudrais pas un Dieu comme ça, moi. S'il ne fait pas du régime, je ne veux pas un Dieu comme ça. Bouddha, votre tripotent. Il y a des gens qui ont des Bouddhas chez eux. Alléluia, les beaux Bouddhas. C'est ornemental. Fou là, la poubelle. Il y a un démon derrière. Vous savez que dans nos maisons, faisons attention, faisons le ménage. Derrière chaque statuette, soi-disant, qui est inoffensive, un esprit de démon se tient derrière. Je vais vous le prouver. Prenez avec moi le psaume 106. Pour bien comprendre, on va commencer à partir du verset 32. C'est un petit peu le récit d'Israël, n'est-ce pas, quand ils ont traversé le désert pour aller dans le pays de la promesse. Oh Israël, c'était beau Israël, n'est-ce pas? Ils avaient reçu la loi au mont Sinaï. Et Étienne nous dit qu'il continuait à adorer le Dieu enfant et Moloch. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Ils avaient vu la montagne trembler, ils avaient vu la mer s'ouvrir, ils avaient vu l'eau couler du rocher. L'idolâtrie, c'est dans le cœur de l'homme. Il est dit, ils l'irritèrent aux eaux de Meriba. Il en arriva du mal à Moïse à cause d'eux. Ils chagrinèrent son esprit, de sorte qu'il parla légèrement de ses lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples, comme l'Éternel leur avait dit. Mais ils se mêlèrent parmi les nations, ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, et elle leur fut un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons, et versaient le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par le sang. Ils se rendirent impurs par leurs œuvres et se prostituèrent par leurs pratiques. Et les Molochs et toute la bande des idoles ont jeté les enfants vivants dans le feu pour satisfaire le dieu Moloch. Comment se fait-il que l'Éternel, de temps en temps, il commençait à dire maintenant ça suffit quoi? Il y avait les déportations, ils étaient livrés aux mains de leurs ennemis, etc. Ils étaient taillés en pièces. Mais c'est dans le cœur de l'homme. Et ce soir, je dis, quelle est l'idole dans ta vie? Ta famille, tes enfants, ta bagnole, ton travail, ton fric. Quelle est l'idole qui est dans ta vie? Si puissant qu'il soit, Dieu demeure son maître et lui fixe les limites qu'il ne peut franchir. Deux fois, il lui précise jusqu'à quel point il pourra attaquer Job. Là, et pas plus loin. Dieu est le maître de toutes les situations. Voilà pour ce soir. Nous continuerons mardi prochain.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.